mettrai mes cendres dans le verre.
Mesdames, Messieurs, penser la littérature aujourd'hui, ce cycle se continue aujourd'hui pour une nouvelle étape entre Pierre-Marc de Biasi, que vous savez ici, et Philippe Solers. Et je laisse le soin à Jean-Pierre Salgas, qui a le temps peut-être de s'asseoir, de vous présenter cette nouvelle soirée. Mais il faut qu'il enlève son voile. Sur ce point, le document qui vous a été remis, tout au moins à beaucoup d'entre vous, je crois, est très pertinent. Et par conséquent, je suis très heureux de réunir. Je rappelle que le principe de cette soirée est celle de réunir un sémiologue ou un philosophe et un écrivain. Et c'est tout à fait le cas ce soir, et c'est pour ça que je m'en réjouis beaucoup. Et je laisse le soin à Jean-Pierre Salgas de préciser un peu les choses.
Merci. Merci et merci, merci à vous d'être ici, merci à nos deux invités d'être autour de moi ce soir. Je ne vais pas parler très très longtemps en introduction. Je voudrais juste dire quand même deux mots pour présenter les deux invités et pour présenter d'une certaine façon le sujet du débat. Pour présenter, enfin, là aussi, le texte qui doit être distribué à l'entrée, je dirais, fait des présentations. Mais enfin bon, au cas où vous n'auriez pas eu ce texte, je rappelle que Pierre-Marc de Biasi disons, l'un des principaux représentants du courant qu'on appelle aujourd'hui la critique génétique. Enfin, c'est le sujet même de la réunion de ce soir. Et il travaille à l'ITEM. Il nous expliquera probablement de quoi il s'agit, l'Institut des textes et des manuscrits modernes. Et il est notamment, entre autres choses, l'éditeur sous cet angle, enfin de cette façon génétique, l'éditeur de plusieurs textes de Flaubert, La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, l'un des trois contes, l'énorme travail que représentent les carnets de travail de Flaubert, qui sont parus il y a deux ans, je crois, chez Ballan, et tout récemment, Le voyage en Égypte de Flaubert. Philippe Solers, j'allais dire, je me passerai de faire des présentations, ça serait un peu ridicule. Je voudrais juste dire qu'il est probablement de multiples façons concerné par la question que nous allons aborder ce soir. Je dirais qu'il est concerné en tant qu'écrivain, en tant que romancier, puisqu'après tout, il a des manuscrits, donc il est une proie pour tous les Pierre-Marc de Biasi du futur, en un certain sens. Mais il est, je crois, très très concerné dans la mesure où toute son œuvre, dans sa première comme dans sa seconde partie, ou dans son unique partie, enfin l'un des enjeux du débat de ce soir est peut-être d'ailleurs de savoir s'il y a une première et une seconde partie de l'œuvre de Philippe Solers, et au cœur même de cette question de la... que j'ai appelé, reprenant un mot employé des fois par certains généticiens, la question de la biographie du texte, au sens où probablement la première partie de l'œuvre de Solers a à voir avec, et Solers lui-même a beaucoup écrit à certains moments sur la question de l'engendrement du texte, hors biographie, en tout cas en apparence. Bon. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on pourrait dire que Solers fait en sorte que sa biographie réelle est engendrée par le texte, enfin j'entends depuis Femme. Mais je ne rentre pas plus avant parce que c'est évidemment des choses dont on parlera avec lui tout à l'heure. Alors, deux mots pour introduire au débat. Ces deux mots, ça serait juste pour dire que cette question de la biographie du texte, ou plus exactement de la critique génétique, est, je crois, au cœur de cette série sur pensée de la littérature aujourd'hui. Plus exactement, elle est tellement au cœur que c'est, en tout cas pour ma part, à partir de l'existence de la critique génétique et à partir des questions que je me posais sur cette critique génétique que j'ai eu l'idée de cette série, au sens où la critique génétique me paraissait... enfin par son existence même, remodeler les anciens partages qui régnaient jusqu'à présent depuis deux événements, ou au moins depuis deux textes ou deux querelles, l'une qui n'a pas eu lieu et l'autre qui a eu lieu. La querelle qui n'a pas eu lieu, c'est la querelle de Proust et de Sainte-Beuve, puisque c'est une querelle, je dirais, deux fois posthume. Enfin, Proust écrit le contre Sainte-Beuve post-mortem, enfin post la mort de Sainte-Beuve. Puis ensuite, ce texte lui-même n'est pas connu directement, et il est connu simplement en 1954, c'est-à-dire en plein moment de naissance de la Nouvelle Critique, de ce qu'on a appelé à ce moment-là la Nouvelle Critique. Et la deuxième querelle, évidemment, qui elle a eu, a été une querelle directe, immédiate, que Philippe Solers, évidemment, a vécu de très très près, c'est, puisqu'il a été l'éditeur de Critique et Vérité, de Critique et Vérité de Barthes, et il était l'ami de Barthes déjà au moment de Fur Racine, c'est évidemment la querelle Barthes-Picard. Donc, si vous voulez, j'avais le sentiment que peut-être la critique génétique, c'est-à-dire l'étude non plus de l'œuvre à partir de la biographie, non plus de l'œuvre à partir de l'œuvre, remettait peut-être en cause l'ensemble des partages que ces deux moments avaient créés dans l'histoire intellectuelle et dans l'histoire littéraire française. Je voudrais juste, comme ça, à titre de rappel et de mémoire, reciter une phrase très célèbre de Proust qui cadre très exactement ce qui est en cause. Et ce que peut-être la critique génétique remet en question, en introduisant un troisième terme, qui est justement l'histoire même du texte. Proust dit, dans Contre Sainte-Beuve, donc, « Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. » Voilà. Et donc, peut-être que la critique génétique introduit un tiers terme qui n'est ni le livre, ni le moi social, justement un terme d'ailleurs qui serait proche de cet autre moi, qui est celui justement qui, selon Proust, écrit. Toujours en introduction, et pour lier ce qui pourrait apparaître comme une sorte de mise en présence arbitraire d'un représentant de la critique génétique spécialiste de Flaubert et de l'écrivain que vous savez, je voudrais dire que d'une certaine façon, la critique génétique est probablement apparue dans le paysage français, en tout cas pour le grand public, c'est-à-dire pour vous, pour moi, et probablement apparue d'une certaine façon dans la même période les œuvres importantes qui en sont issues sont apparues dans la même période que ce qu'on a appelé la fin des avant-gardes et ce qu'on a appelé le retournement, le reniement, etc., de Philippe Solers. C'est-à-dire à un moment où, semble-t-il, contre la période antérieure, finalement, on revenait, on restaurait, on revenait, ça de toute façon, enfin, on revenait au sens de revenir sur un problème, sur un certain nombre, justement, de partages anciens. Justement, la question étant de savoir si c'est ou non quelque chose qui est de l'ordre de la restauration d'un avant finalement, restaurer Picard ou restaurer Sainte-Beuve, ou est-ce que ça n'est pas plus compliqué que ça. Donc, simplement, il y a probablement coïncidence entre, finalement, en tout cas au niveau des dates, entre la publication de Femmes en 1983 et l'apparition massive de la critique génétique, au sens où, finalement, le numéro de littérature où elle est pour la première fois, de la revue littérature où elle est pour la première fois théorisée, est un numéro de 1977, et où probablement la grande apparition publique de la critique génétique, c'est la chute dans le domaine public de Proust, et donc la Pléiade, la nouvelle Pléiade Proust en 4 ou peut-être 5 volumes, d'ailleurs je sais plus, parce qu'en fait j'utilise toujours l'ancienne, à vrai dire, je dois l'avouer, l'ancienne qui était en 3, l'apparition de la Pléiade Proust donc en 87, donc si vous voulez 77-87, enfin c'est exactement la pleine période où l'œuvre de Solers en tout cas tourne, change. Là aussi, il est par ailleurs assez amusant d'ailleurs de noter que c'est Proust qui a fait les frais de cette critique génétique, Proust justement qui était celui qui avait en un certain sens fixé pour longtemps le code de la nouvelle critique, de la critique nouvelle, voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est tout à fait, je crois, tout à fait intéressant. Toujours, histoire de lier nos deux invités de ce soir, je rappellerai d'une certaine façon que Philippe Solers, en un certain sens, dont on pourrait se dire après tout, il n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le génétique, en dehors finalement des mots, en dehors du fait qu'il a utilisé les mots d'engendrement du texte, de genèse du texte, dans la première partie de son œuvre. Je rappellerai juste en tout cas que Philippe Solers est celui qui a édité et là on retrouverait Pierre-Marc Dubiasi, la première éducation sentimentale de Flaubert dans la collection telle quelle, qui était d'une certaine façon une façon de faire voir la genèse de Flaubert, à une époque où on n'en parlait pas et où ça ne passionnait pas tellement les Flaubertiens, en tout cas sous la forme qui est celle aujourd'hui de Pierre-Marc Dubiasi. Je rappelle aussi que Philippe Solers a été continuellement, en tout cas pendant l'essentiel de leur existence commune, si je puis dire, l'ami de Ponge, qui d'une certaine façon, et Ponge était à l'origine de Tel quel, je crois qu'il était dès le premier numéro de Tel quel, au sommaire du premier numéro de Tel quel en 1960, et Ponge est très exactement même le seul écrivain qui a fait œuvre génétiquement, c'est-à-dire à la limite, Ponge, c'est le seul écrivain dont les romans ressemblent plus aux livres de Pierre-Marc Dubiasi sur Flaubert qu'aux livres de Solers, pour caricaturer la chose. C'est-à-dire, il nous a donné ses brouillons, et ses brouillons, les brouillons de Ponge, qui étaient l'œuvre, bon, en un certain sens. Je rappelle, évidemment, La fabrique du pré, ou Comment une figue de parole et pourquoi. Je rappelle aussi les entretiens, à la fin des années 60, à la radio, et qui ont été publiés en volume, entre Ponge et Solers. Donc, ceci pour dire qu'il y a, évidemment, Solers a probablement quelque chose à voir de plus profond, au-delà des formules, avec la question, sinon de la critique génétique, du moins de la genèse. Je rappelle aussi qu'après tout, Tel quel était un titre emprunté à Valérie, et que Valérie aussi est quelqu'un, d'une certaine façon, qui a fait œuvre avec ses brouillons, d'une façon peut-être moindre que ne l'a fait Ponge, mais après tout, il a laissé cette monumentale chose que sont les cahiers, dans un geste qui n'est pas sans avoir à voir avec celui de Ponge. Voilà, quel est un peu le cadre de la discussion de ce soir, qui, comme les discussions précédentes, je dirais, ne doit pas être ni un conflit violent, ni un échange de bons procédés rhétoriques. Donc, je suis tout à fait confiant, d'ailleurs, dans les deux personnes qui m'entourent. Je voudrais, pour commencer, demander si on peut réduire quelque chose, comme la chaleur qui pèse sur nous, je ne sais pas... moi, personnellement, j'ai le sentiment d'une chape de plomb fondue qui pèserait sur moi. Donc, si on peut faire quelque chose concernant les spots, je m'excuse de faire cet aparté, mais je pense que...
On peut se déshabiller aussi.
On peut se déshabiller. Ah, mais c'est parce que je suis en pleine lumière plus que vous, je ne sais pas. Bon. En tout cas, je voudrais commencer par demander à Pierre-Marc Dubiasi de nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Quand on parle de critique génétique, quelle est la nouveauté de cette critique, si nouveauté il y a, comment lui se situe en tant que critique généticien, quelle est la différence entre cette critique et la critique structurale qui aurait tenu le haut du pavé dans les années précédentes. En apparence, c'est le contraire, genèse et structure, c'est un couple pour lycéen de terminale. Bon, est-ce que c'est si simple que ça? Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire la genèse de la critique génétique et vous placer vous-même dans le tableau de telle sorte qu'on voit un peu à quoi on a affaire de votre côté?
Oui, alors approximativement, on peut dire que c'est pas du tout le contraire des chemins actuels de la critique, ni de la critique des années 60 et 70 qui avait été éminemment représenté par Tel quel. Au contraire, on pourrait même dire que c'est ce qui en est sorti, après un certain nombre de fractures, c'est vrai. C'est donc pas du tout une restauration de vieilles choses. C'est évidemment ce que la tradition, les puissances de la tradition aujourd'hui, observant un certain succès de ces travaux, cherchent à faire croire, c'est-à-dire, pour résumer, la vieille Sorbonne, après nous avoir dit « qu'est-ce que vous faites ?» C'est insupportable, nous dit maintenant, au fond, vous faites ce que nous avons toujours fait, de la philologie, etc. Non, la critique génétique n'est pas de la philologie, je crois que c'est une chose qu'il faut dire tout de suite, et par conséquent, ce n'est pas la restauration d'une vieille problématique antérieure à la guerre. Ce n'est pas non plus un désaveu de cette tradition, c'est un prolongement passé par l'expérience du structuralisme et des chemins actuels de la critique. Pour vous donner un exemple tout à fait personnel, au moment où Tel quel était à son apogée, moi j'étais étudiant, donc c'était faisait partie de ma formation directe. J'avais commencé une thèse sur, quand j'étais à l'école, à Saint-Cloud, Normale Sup, avant mon agrégation, j'ai commencé une thèse sur le bestiaire du 19e siècle, sur le rôle symbolique des bêtes du point de vue de l'imaginaire au 19e. J'ai fini par renoncer à cette thèse, mais Je l'avais fait en essayant de concilier, chose qui était la gageure de l'époque, les courants d'interprétation analytique, psychanalytique, sociocritique, historique, linguistique, etc. Et puis j'avais constitué un corpus. Je vous expliquais donc comment je suis arrivé en pratique quoi, à l'étude des manuscrits. J'avais constitué un corpus des grands textes, pas seulement littéraires d'ailleurs, où il y avait des textes de Hugo, des textes de Toussnel, de Flaubert, etc. Et puis, tombant sur un des textes importants de ce corpus, qui était un petit conte de Flaubert, La légende de Saint-Julien, dans les trois contes, j'ai essayé d'appliquer ces méthodes d'interprétation, et puis ça ne marchait pas du tout. Il y avait des choses qui marchaient, mais cette panoplie méthodologique que j'avais constituée ne marchait pas bien. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir les manuscrits. Je savais qu'ils existaient, ils étaient à l'ABN. Je savais aussi que personne ne les avait regardés, parce qu'ils étaient considérés comme illisibles, partiels, mal fichus. Bon. Et je suis allé à la Bibliothèque nationale, j'ai demandé à voir ces manuscrits qui m'ont été livrés en vrac, hein, qui sont reliés, mais dans un ordre tout à fait aberrant. Et puis, ils ne peuvent pas être liés autrement. Et puis, j'ai commencé à sonder. Et j'ai assez vite compris pourquoi mon système ne marchait pas dans ces brouillons. Seulement, sonder, il fallait classer, il fallait... Finalement, j'ai fait une plongée de 3 ans là-dedans, et j'en suis ressorti avec un autre sujet de thèse et un autre travail, qui était la première édition génétique d'un texte de Flaubert. J'avais eu la chance de tomber un peu par hasard sur un texte dont on possède tous les manuscrits, tous les brouillons, depuis le premier petit bout de papier écrit 20 ans avant sur le pré-projet de ce texte, jusqu'aux dernières corrections définitives sur le manuscrit définitif. On peut reconstituer toutes les opérations d'écriture qui produisent ce texte, ce qui était complètement fascinant. Et ce qui, alors, dans l'étude, je dirais, microscopique de la phrase, me permettait de comprendre pourquoi ma petite panoplie critique ne fonctionnait pas, alors qu'elle fonctionnait assez bien sur Hugo et sur Michelet. Et bon, voilà. Au même moment où je faisais ce travail, d'autres chercheurs qui étaient universitaires ou non universitaires qui travaillaient jusque-là dans la narratologie, en psychanalyse, en sociologie, en histoire des textes, etc., se sont retrouvés en face de du même besoin de revenir aux manuscrits, mais attention, pas aux mêmes manuscrits, ceux que justement on n'avait pas regardés vraiment jusque-là, les vilains manuscrits, c'est-à-dire ces manuscrits de travail, ces brouillons, parfois vraiment, vraiment opaques, apparemment, on en finit toujours par pouvoir les lire, qui racontent un processus. Et l'ensemble de ces chercheurs qui avaient ce besoin, cet ensemble s'est retrouvé dans le cadre de ce qui n'était pas d'abord d'ailleurs un laboratoire, mais plutôt un centre de recherche qui avait été ouvert par le CNRS pour accueillir cette nouvelle tendance, et puis qui s'est transformé progressivement en laboratoire. Et aujourd'hui, donc, je travaille cet institut que citait Salgas, l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui est un laboratoire propre du CNRS, qui regroupe un nombre assez important de gens, 150 environ, sur des corpus différents, pas seulement français, d'ailleurs, il y a des corpus étrangers, Joyce notamment. Il n'y a pas Kafka, malheureusement, mais il y a quelques grands corpus français, dont Flaubert, Valéry, Sartre, etc. Un corpus allemand, Heine. Et donc, si vous voulez, l'histoire de la génétique, je crois qu'elle est véritablement liée à une sorte de moment de fracture, effectivement bien décrite par Salgas tout à l'heure, qui n'est pas du tout la remise en cause des acquis de la nouvelle critique, mais la relance de ces méthodologies critiques à travers d'autres objets. Autrement dit, il y a eu un moment, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, où j'ai eu l'impression que la théorie du texte, qui nous avait apporté énormément de choses. Jamais la génétique n'existerait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la notion de génotexte, par exemple, qui a été mise en place, qui était quand même très très proche de ce que nous faisons. La notion d'intertextualité, de textualisation, enfin, tous ces concepts étaient tout à fait essentiels pour construire la génétique. Donc on n'aurait pas du tout ressenti ce besoin si on n'était pas passé par ces années des chemins actuels de la critique, des années 60-70. Mais en même temps, ce besoin, il s'est fait ressentir de l'absence de quelque chose. Et cette absence, je crois qu'on peut lui donner un nom, c'est assez simple, c'est le temps. c'est la temporalité. Ce qui manquait, au fond, cruellement, je crois, aux études structurales, c'était cette quatrième dimension du texte qui est cette temporalité. Le fait qu'un texte, quoi qu'on fasse, qu'on le veuille ou non, il a une biographie, ou plus exactement, il a un temps de fabrication. Même si il y a très peu de brouillons. Hein, même quand Kafka ne fait pas de brouillons, parce qu'il y a quelques écrivains qui n'en font pas, ou peu, c'est quand même très rare, son manuscrit est animé par quelque chose qui est un jeu de rature, qui peut être très simple. Hein, chez Kafka, ça peut se résumer au fait que, brutalement, en cours de récit, il va passer du je au il, du il au je. Bon, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus important que ça comme épaisseur de travail. Chez Flaubert, ça atteint alors des sommets, puisque chaque page est recommencée entre 8 et 15 fois avant d'arriver à un texte définitif. Et donc, c'est cette temporalité, si vous voulez, cette curiosité qui est quand même celle de notre temps, hein, savoir comment ça se fabrique, quoi, comment c'est fait. Et cette curiosité, elle est récompensée naturellement par des découvertes qui ne sont pas négligeables. C'est-à-dire que, à beaucoup d'égards, ce que démontre le brouillon, ce qui met en évidence, c'est tout un tas d'interprétations possibles du texte final qui étaient soit réinventées par la critique quand elle était juste, pertinente, intelligente, profonde, mais qui n'était pas totalement confirmable, que les brouillons viennent confirmer, ou au contraire, c'est une affirmation parfois violente, hein, du tout au tout, de certaines interprétations proposées par la critique. Alors, il en va des brouillons comme du texte aussi, c'est-à-dire qu'il faut se garder de l'idée qu'on pourrait arriver à une science de la littérature. Il est probablement impossible de bâtir l'hypothèse d'une interprétation absolue du texte à travers les brouillons. Néanmoins, on approche quand même quelque chose de beaucoup plus approfondi. Alors aujourd'hui, la critique génétique s'intéresse de très près à l'édition, bien entendu, c'est une de ses retombées les plus directes, à l'édition critique, mais aussi aux éditions courantes, hein, c'est-à-dire qu'actuellement, les éditeurs, même pour des collections de poche, hein, des collections avec peu de notes et peu de présentations, font de préférence appel à des généticiens ou à des gens qui reviennent au manuscrit. Ça a joué naturellement un rôle très important à la Pléiade, encore que la Pléiade, malheureusement, après de très très belles choses, à mon avis, régresse un tout petit peu du côté des notes et de l'appareil génétique. Mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Pourquoi pas 10 volumes Proust, hein, puisque, au fond, les manuscrits sont presque infinis. Et puis, il y a véritablement un niveau critique qui est propre à cette recherche et qui consiste à aller chercher dans la proto-histoire du texte, dans ce qui a précédé ce moment fracture qu'est le bon à tirer, hein, le moment où le texte signe son identité, presque définitive, aller chercher dans cette préhistoire du texte des arguments pour le comprendre mieux, pour comprendre aussi son mécanisme. La critique génétique est une étude du processus, hein, avant toute chose. Et du coup, elle va, au-delà de la littérature, à la recherche de nouveaux terrains de recherche, et comme critique du texte et de la littérature, nous apercevons que du côté des sciences de l'homme, du côté des sciences dures également, de la physique, la chimie, la biologie, etc., du côté de la musique, mais aussi de l'architecture, des recherches du même type sont possibles, avec évidemment toutes sortes de d'aménagements notionnels et de démarches, mais sont tout à fait imaginables sur d'autres corpus, y compris non linguistiques et non textuels. Voilà, en gros, hein, le résumé du cadre dans lequel ces travaux s'inscrivent. Bon, les textes qui ont été cités par Salgas, par exemple les carnets de travail de Flaubert.
Juste un mot, je vous coupe. J'aimerais que vous donniez un exemple précis qui pourrait être tiré des carnets de travail de Flaubert ou par exemple les hommes de Saint-Julien, puisque c'est un texte bref, de ce que, d'une certaine façon, la critique génétique a permis de trouver que d'autres approches n'auraient pas permis de faire. Que vous rentriez dans le détail sur un point, si c'est possible.
Oui. C'est facile. Oui, oui, non, il y a 1000 points possibles.
Ou un exemple d'affirmation.
Oui, ben, il y a 1000 points possibles. Il y en a un qui est amusant, qui est, mais c'est pas très gentil pour un copain à moi qui est psychanalyste. Mais bon, vous savez l'histoire prenons l'histoire de Saint-Julien, par exemple, de Flaubert, qui est une histoire terrible, une histoire sanglante de parricide. C'est l'histoire d'un petit garçon, donc qui après avoir massacré des quantités formidables d'animaux, finira par tuer son papa et sa maman.
C'est Pierre Rivière.
C'est un texte terrible et formidable, vraiment probablement un des textes les plus effervescents de Flaubert, et où il règle naturellement toutes sortes de comptes avec sa maman, par exemple, qui vient de mourir. Bon. Ce petit texte commence par une description du château des enfances de Julien. Donc Julien est un petit garçon qui a la chance d'être le fils d'un seigneur, très puissant, le père, quoi. C'est un château du Nord, très noir, etc. Bon, je passe sur les détails, il y a plein de choses très amusantes qu'on voit dans le brouillon. Les critiques avaient pressenti qu'il y avait un rapport là-dedans avec Chateaubriand, hein, avec les mémoires d'Outre-Tombe, évidemment, le clin d'œil et le jeu de Flaubert sur la description du château médiéval. On le soupçonnait. Dans les brouillons, on voit la chose mise en scène de façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a toute une description. C'est pas à ça que je voulais en venir, mais enfin, je fais juste une digression. Il y a un moment où Flaubert se dit qu'il faut faire une description de la toiture du château. Alors, il explique que la toiture est très belle, qu'elle est en écaille de plomb, mais qu'elle est luisante, qu'elle est reluisante. Enfin, bref, il recommence, etc. Mais il essaie de mettre en scène l'idée que c'est un château brillant. Quoi. C'est vraiment. Et il y a en permanence dans les brouillons ces jeux de mots qui sont en train de travailler le texte complètement. Donc, il y a véritablement un univers formidable de où l'intertextualité se vit, je dirais, à l'échelle du phénomène de l'écriture. Mais, donc, le détail dont je voulais parler, c'est dans cette description. On a donc une description des murailles, des douves autour du château, et le texte donne les murailles étaient entourées d'un fossé plein d'eau. Et il y avait un ami psychanalyste connu qui avait fait une conférence en même temps que moi-même sur le texte, sur ce début du texte, et il nous avait donné une image extraordinairement convaincante de la manière dont ce château était une situation fœtale, où le cadre même de la vie de ce petit Julien le cernait par cette matière liquide, etc. L'ennui, c'est que les fossés pleins d'eau, c'est une erreur du copiste de Flaubert, parce que Flaubert avait écrit les fossés pleins d'herbe. Et justement, ces fossés sont secs. Ils sont absolument secs parce que le seigneur est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de protéger son château. Et par conséquent, le pont-levis est toujours baissé, les fossés sont pleins d'herbe. Et c'est très important qu'ils soient vides parce que c'est là que va avoir lieu un meurtre. Le premier meurtre vraiment de jouissance du petit Julien, au moment où il va étrangler un pigeon quelques pages plus loin et où il va jouer pour de bon quand il sera adolescent. Ça marquera le moment du passage à un autre stade de la cruauté de Julien. Il faut vraiment que ces fossés soient vides, quoi. Ils ne soient pas pleins d'eau, pas du tout. Et alors, le problème, c'est que Flaubert, évidemment, c'est vraiment un homme du manuscrit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fini son manuscrit définitif, c'est parfait, il ne regarde même pas ce que le copiste va faire. Le copiste de l'époque, c'est l'équivalent de notre dactylographe ou de la saisie informatique aujourd'hui, hein. Mais ça ne l'intéresse plus du tout. Alors, il n'a pas regardé, ça a été imprimé comme ça, ça a été réimprimé jusqu'à mon édition où j'ai changé, enfin, j'ai remis le texte du manuscrit de Flaubert. Mais vous voyez comment la psychanalyse qui joue sur ses propres présupposés de façon tout à fait sérieuse et tout à fait logique peut être complètement induite en erreur par une paille grave qui est simplement que c'est pas le texte. Alors ça, il faut se mettre aussi dans la tête que nos travaux sur les travaux de tous les interprètes, les chercheurs sur les textes de la littérature française, par exemple, c'est pareil, sinon pire dans d'autres langues. Ce sont des travaux qui sont faits sur des textes très, très médiocres. Hein. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, par exemple, il n'y a pas d'édition correcte de Salammbô de Flaubert. Ben, aujourd'hui, il y a une trentaine de fautes lourdes hein, dans le texte de Salammbô qui sont reconduites d'édition en édition, qui n'ont pas été vues par Flaubert, auxquels se sont rajoutés au fur et à mesure des rééditions de nouvelles fautes. Et voilà. Bon, c'est un détail, il y en a beaucoup d'autres, naturellement. Voilà, est-ce que c'est une réponse? Peut-être pas entière. Hein, mais...
C'est une réponse et c'est beaucoup de questions que je vous poserai tout à l'heure. En particulier, d'une certaine façon, en vous écoutant, la critique génétique, vous la définiriez comme une critique psychanalytique lacanienne et non freudienne, enfin, le signifiant contre le fœtal. Enfin, c'est, je veux dire, on revient à quelque chose de ce genre-là. Voilà. D'autre part, vous l'avez donné comme issue de tel quel, d'une certaine façon. Enfin, vous êtes présenté comme un enfant de Philippe Salers, lecteur de...
Un enfant, c'est peut-être quand même lui faire injure, parce que... Non.
C'est une question sur laquelle on pourra revenir aussi, puisqu'il y a beaucoup de... Enfin, d'autres généticiens, justement, et c'est pour ça que je posais la question de la possible restauration, et je pense, pour ne pas le nommer, à Jean-Yves Tadier, par exemple, enfin, donne de la critique génétique une version vieillissante bonne, très traditionnelle.
Ah, oui, c'est ce que bon, je disais.
Oui. Donc, voilà. On pourra en reparler. Il dit finalement c'est la critique des sources. Il privilégie une continuité qui n'est pas celle que vous privilégiez contre une rupture qui serait justement celle que vous privilégiez.
Ah oui, non, mais bon, non seulement ça, mais la notion de source, on la révoque en doute totalement. Hein, totalement. La notion de source est une notion complètement héritée de la philologie médiéviste. Mm-hmm. Elle n'a rien à voir avec le manuscrit moderne. Nous nous intéressons à un manuscrit qui n'existe que depuis que l'imprimerie existe.
Et vous n'avez pas le sentiment, mais je vais donner la parole à Salers, vous n'avez pas du tout le sentiment, par exemple, que par la question. L'irruption d'un tiers personnage, qui est le texte d'une certaine façon tel que vous le présentez, avec l'histoire du manuscrit, ça, vous restaurez les continuités psychologiques
pas du tout.
Tant Proust que la nouvelle critique avait heureusement balayé éventuellement, ou malheureusement.
Non, pas du tout. D'abord, je ne crois pas qu'on puisse totalement balayer la psychologique. Hein. C'est-à-dire qu'elle a son
sa raison. Enfin, vous restaurez, je veux dire, place. Le moi que Proust, justement, estimait être le moi extérieur, celui qui finalement finit par écrire.
Le moi que nous restaurons, c'est un moi de papier, c'est ça. Mmh. C'est le corps de l'écrivain. Une très belle expression de Flaubert dans sa correspondance. Il est jeune encore, mais il s'est toujours senti vieux depuis qu'il était tout petit. Et au moment où, de passer pour de bon à l'écriture, c'est-à-dire qu'il va se mettre enfin à écrire Madame Bovary, il parle de tous ses manuscrits de jeunesse, c'est déjà énorme. Il y a déjà des milliers et des milliers de pages. Il n'a rien publié, mais enfin, il y en a déjà beaucoup. Et il dit, au fond... J'aimerais bien faire comme les chefs indiens. J'aimerais bien qu'on m'enterre avec tout ça. Parce que c'est mon cheval.
Je peux citer la phrase. Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c'est tout ce que je veux. Ouais. C'est dommage qu'il me faudrait un trop grand tombeau. Je les ferais enterrer avec moi, comme un sauvage fait de son cheval. Ce sont ces pauvres pages-là, en effet, qui m'ont aidé à traverser la longue plaine.
Oui.
3 avril 1852, ouais. À Louis Collet.
Alors, heureusement, il a beaucoup, beaucoup écrit. Donc, il y a environ 40 à 50 000 pages de manuscrits qui ne sont pas dans un tombeau. Et c'est son corps vivant. Hein. Je veux dire que c'est son moi vivant, c'est une formidable bouteille à la mer. Hein. Tous ces gens qui ont laissé leurs manuscrits, ils ne l'ont pas fait par hasard. Hein. Si on s'en occupe aujourd'hui avec un siècle ou un siècle et demi de retard, c'est qu'on travaille sur leur influence, hein, sous influence, la leur. Ils l'ont programmé, bien évidemment. Donc c'est ce moi-là, auquel on redonne sa voix, qui est la voix du travail de l'écrivain. C'est tout.
Je m'adresse maintenant à Philippe Salers pour lui demander, enfin, là aussi plusieurs questions en une. Est-ce qu'il a, puisqu'il est dans la position de Flaubert ce soir, est-ce qu'il a le sentiment, est-ce qu'il dirait de ses manuscrits, par exemple, je ne sais pas du tout s'il dirait aussi ce que Flaubert dit dans cette lettre que j'ai citée, s'il dirait de ses manuscrits que ce sont son moi vivant, d'une certaine façon, ou s'il le dirait seulement, ça j'imagine plus facilement, des textes publiés que nous pouvons lire. D'autre part, je voudrais savoir s'il se... pour revenir à cette question de la paternité, entre guillemets, est-ce qu'il se reconnaît... d'une certaine façon, est-ce qu'il a le sentiment que la critique génétique telle que vous l'avez définie a à voir avec ce que lui a tenté de mettre en avant, dans les années 60 avec tel quel et aujourd'hui, enfin, est-ce que vous avez le sentiment d'une parenté ou pas, ou est-ce que finalement votre moi vivant d'écrivain se sent très loin de ces problèmes et les poserait tout autrement, éventuellement par exemple plus fidèle à la lettre de Proust que ne le ferait la critique génétique, enfin comment chanter cela.
J'observe d'abord quelque chose de vertigineux. Tout ce que dit Biasi m'intéresse passionnément, les carnets de travail de Flaubert, les manuscrits de Proust, les 15 volumes d'édition des manuscrits de Joyce, de Finnegan's Wake, qui ont été réalisés par mon ami, David Eman à New York, il n'y a pas une page, il n'y a pas un paragraphe qui ne comporte 4 ou 5 problèmes à la fois que l'on peut rattacher à une élaboration précisément dans le temps d'un vrai corps vivant qui est celui de l'œuvre en question en train de s'écrire et qui donc observe sa propre logique. Quand je dis que c'est quelque chose de vertigineux, c'est que on peut faire ce travail sur tous les écrivains, mais que nous sommes précisément à l'époque où on peut se demander s'il y a encore des écrivains comme ça, si tout n'est pas organisé pour une pure représentation très plate de la surface d'écriture préfabriquée, s'il y aura encore des corps vivants ou des sauvages en relief à 3 dimensions dont les manuscrits représentent les cicatrices, les tatouages ineffables. Et si tout n'est pas organisé par la société dans laquelle nous vivons pour que tout cela nous apparaisse comme un problème de haute antiquité. Les choses seraient donc allées très vite et l'explosion de la critique génétique que vous faisiez remarquer en commençant coïnciderait avec une prise en main complètement arrasante, un processus d'effacement non seulement des textes qui sont désormais probablement de moins en moins des manuscrits, mais des disquettes, des choses de machine, des traitements de textes à effacement de mémoire. Et voilà le vertige. Comme si, jusqu'à une époque très récente, il y a à peine 30 ou 40 ans, nous avions eu affaire à cet énorme dossier d'un moi réellement vivant dans son langage tracé, comme si brusquement nous entrions dans une autre phase historique où vous savez bien que tous ces gestes d'apprentissage, de patience, d'engendrement par la rature, par le repentir, par l'encre, par les longues veillées, par l'évaluation constante d'une aggravation, d'une digression, d'un ajout, voire Proust, enfin qui n'arrête pas d'ajouter. Mais c'est la main qui est là, et c'est un corps souffrant, jouissant, en effet, qu'on sent derrière, avec sa biographie. Comme si tout cela était désormais décrété, nul, non avenu, et passé. Moi, c'est ça qui me frappe. Au moment même où il est possible que nous changions complètement de dimension, la critique génétique... Pour un public quand même assez restreint, nous restitue brusquement ces aventures extraordinaires d'un passé très très récent. Songez que maintenant, donc, les textes introduits, fabriqués, préfabriqués souvent dans l'économie de marché plate dans laquelle nous entrons, où les livres doivent être évacués très vite et être donc écrits dans une langue basique, sans verticalité, sans retouche, sans mots qui risqueraient de gêner. Les problèmes de Flaubert, ou même ceux de Proust, j'amènerai aujourd'hui le manuscrit de Proust à un éditeur, peut-être trouverait-il qu'il est absolument nul et non avenu pour, je ne sais pas, une transposition éventuelle à la télévision ou ailleurs. Il y a trop de mots, c'est trop nuancé, la phrase est trop longue, il y a trop de détails, c'est absolument inutile. D'autant plus que dans le système dans lequel nous entrons, les mémoires peuvent s'effacer à tout instant. Songez par exemple au dernier virus qui s'appelle Michel-Ange, qui avait été programmé, il a fait moins de dégâts que prévu. Mais on n'empêche que c'est un virus qu'on peut localiser au large de la Chine, et qui pouvait attaquer, donc, pour la date anniversaire de la mort de Michel-Ange, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, pouvait attaquer toutes les machines IBM informatiques. Certaines entreprises ont été détruites en Illinois ou ailleurs, moins que prévu, mais beaucoup en Chine, en revanche. C'est-à-dire que si j'ai programmé quelque chose pour attaquer la mémoire, même des textes, Et comment seront-ils enregistrés désormais, puisqu'ils sont écrits comme ça, sur, encore une fois, des disquettes, des systèmes informatiques, etc. Tout ceci est éminemment fragile et peut-être effacé du jour au lendemain, sans que l'on y retrouve la présence d'un corps. Vous avez eu tout à fait raison d'insister sur cette notion de corps, puisque cette génétique du texte en question nous fait retrouver les tâtonnements, les tremblements, les attentes d'un véritable corps qui est là et qu'on sent derrière, indubitable. Voilà le problème que j'appellerais de vertige. Car qu'est-ce que va désormais être un écrivain avec manuscrit ou pas?
Vous écrivez vous-même sur disquette?
Non, pas du tout. Mais je dirais par là même que bien que la question des manuscrits soit absolument primordiale pour moi, j'essaye justement à cause de l'époque où nous sommes de ne pas y attacher trop d'importance. C'est-à-dire que j'essaie d'emporter de mon vivant mes manuscrits en moi. Je n'attends pas le posthume, car la dimension posthume de la critique génétique est d'emblée indubitable. Il s'agit bien de retrouver les traces d'un corps vivant après sa mort.
Il y a eu le cas très particulier de Ponge ou d'Aragon qu'on fait don vivant de leur corps à la science, à la science génétique. Enfin, il y a eu ces choses intermédiaires dans le changement
bien,
de période.
Bien entendu, ce qui pose la question de savoir comment un écrivain aujourd'hui spécule ou pas sur son après-vie.
Dans le cas d'Aragon, c'était vraiment ça.
Voilà. Donc, où se place un écrivain aujourd'hui ? Entièrement dans sa vie des pensées sans reste, ou bien est-ce qu'on tend quelque chose après sa mort? Je dirais qu'étant donné la redoutable entreprise qu'on pourrait appeler de dégénétique, ou de désincarnation, si vous préférez, au sens strict, dans laquelle la société désormais planétaire est entrée, un écrivain qui spéculerait sur son après-mort en écrivant, serait dans un comble d'erreur. Il n'y a pas de futur herméneutique pour un écrivain d'aujourd'hui. Je sais que jusqu'à Joyce, pratiquement, mais pas pour Céline, il y a l'idée que le texte que l'on a fait une fois mort va tracasser les interprètes, les déchiffreurs à la loupe, les regardeurs d'intervalles et de ratures pendant 3 siècles. On peut calculer là-dessus. Pour cela, il faut croire qu'il y aura un avenir de cet ordre. Si l'on ne croit pas qu'il y a un avenir de cet ordre, alors se pose immédiatement la question de savoir comment on peut écrire directement, sans souci exagéré d'une œuvre achevée, bien que ça en fasse, pour finir, il y aura des œuvres, mais sans souci, a priori, d'écrire une œuvre, je crois que ça c'est... C'est ça, quelque chose qui arrive aujourd'hui à quelqu'un de lucide, n'est-ce pas? On n'écrit pas pour faire une œuvre, on n'écrit pas pour être posthume, on n'écrit pas pour laisser derrière soi des traces qu'on enterrera. Il s'agit d'être immédiatement en direct avec la plus grande capacité de récit, donc de sensation, donc de vie dont on est capable. Je vais vous raconter une petite... Prendre 2 anecdotes pour montrer l'état actuel des choses, car les corpus anciens ont droit à tout notre intérêt. Je suis sûr que tout ce que vous faites est extrêmement précieux et tout ce que je peux lire des résultats m'intéresse. Mais tout de même, il faut voir dans quelle situation est donc éventuellement un écrivain aujourd'hui. Je vais vous citer 2 anecdotes personnelles. La première, c'est par exemple qu'on me propose d'écrire, comme à peu près 3 fois par semaine, un texte pour une publicité. Je ne dirais pas le produit, peu importe, ça peut être de la...
Si vous pouvez faire une publicité.
Est-ce que je veux vanter une crème d'asperge, un parfum, une automobile, etc. Et quand je reçois la commande publicitaire, je sais que le maître d'aujourd'hui, c'est pas Napoléon III, la Troisième République, c'est le publicitaire. Sa parole équivaut à un ordre. Et voici par exemple quelle est la recommandation. Bien sûr, je ne réponds pas, mais je reçois les papiers. Et voici par exemple comment se formule cet ordre sous la rubrique « contrainte de fond ». Contrainte de fond qui est demandée donc aux auteurs qui participent à cette rédaction publicitaire. Évidemment, on souhaite des signatures d'écrivains. La seule contrainte à respecter par les auteurs est de ne développer aucun propos à tendance politique, religieuse, amorale, raciale, tendancieuse ou négative. Je vous ferai remarquer que cette formulation en elle-même géniale, car elle définit aujourd'hui tout ce qui est interdit, c'est-à-dire la littérature elle-même. Et c'est envoyé à des écrivains. Comporte la formulation suivante, extrêmement intéressante, c'est que il est recommandé donc de ne développer aucun propos à tendance politique, religieuse, amorale, raciale, négative, à tendance tendancieuse. Tout discours à tendance tendancieuse est donc éliminé de fait. L'écrivain qui reçoit cette commande, cette contrainte de fond, sent bien qu'elle lui est adressée par le maître social général et aura donc tendance, à moins d'avoir un fort système nerveux, à éviter de se laisser aller à des tendances tendancieuses.